Bienvenue dans un tout nouvel épisode de ce podcast dans lequel j'échange chaque semaine avec une personne inspirante qui est devenue libre, selon sa propre définition, grâce au code. Aujourd'hui, j'accueille Shubham, un ingénieur sorti d'EPITA qui a lancé une multitude de projets depuis et qui est surtout l'une des références en France dans le domaine du no-code. Alors si le terme no-code ne vous dit que vaguement quelque chose et que ça vous intrigue, ou si vous connaissez déjà cette technique mais que vous avez envie d'avoir l'avis d'un entrepreneur là-dessus, cet épisode devrait vraiment vous intéresser. Shubham, en tant que développeur, va nous donner sa vision du no-code. Est-ce que c'est un phénomène qui va tuer le métier de développeur ? Est-ce que c'est vraiment la nouvelle révolution pour ceux qui ne savent pas coder ? On va essayer d'y répondre dans cet épisode. Et puis on verra aussi comment quelqu'un qui a une idée de projet, d'appli ou de site web par exemple, peut faire pour se lancer le plus rapidement possible, mais aussi quelles sont les erreurs à éviter quand on veut monter son business. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous le faire savoir sur Apple Podcast en laissant votre avis. Et en attendant, moi je vous laisse apprécier mon échange passionnant avec Shubham. Salut Shubham, merci d'avoir accepté l'invitation pour participer à un nouvel épisode de ce podcast. Avant qu'on rentre un peu dans des discussions plus ou moins profondes, voire même un petit peu techniques, est-ce que tu pourrais rapidement te présenter, nous dire qui tu es et ce que tu fais en quelques lignes aujourd'hui ?
Ouais, carrément. Bah, écoute, merci beaucoup pour l'invitation. Alors, je m'appelle Shubham Sharma. Je suis un ancien, ancien développeur, même si je code encore parce que je fais pas ça full time maintenant. Mais voilà, parcours assez classique de développeur, je dirais. J'ai commencé à coder assez tôt quand j'avais 14 ans à peu près. Et puis après, j'ai compris qu'il y avait pas mal de demandes dans le monde du site web, etc. Donc, j'ai été à fond dans le monde du PHP à l'époque, à faire beaucoup de WordPress, beaucoup de Joomla pour ceux qui connaissent. Puis après, j'ai fait une école qui s'appelle EPITA, qui est une école d'ingénieur en informatique où j'ai un peu repris les bases du code. Ça m'a énormément intéressé. J'ai fait x3 au niveau de mon niveau en code, je dirais. Et puis après, j'ai fait une petite fourche vers le marketing où je suis parti. Je suis dans une entreprise qui s'appelle Mailjet, faire du développeur évangélisme. Et peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais l'idée, c'est de faire du marketing pour développeurs. Puis après, j'étais CMO dans une boîte, donc là, purement marketing. Et après, j'ai commencé à monter des projets en indépendant, un peu en voyageant un peu pendant 2 ans. Et aujourd'hui, j'ai une chaîne YouTube où je parle de no-code. Donc, c'est assez marrant parce qu'on est ici sur un podcast de dev. Mais l'idée, c'est comment est-ce qu'on fait pour ne pas coder à chaque fois qu'on a besoin de coder. C'est-à-dire, pour autant. J'adore dire qu'on est tous des flemmards. Et du coup, comment est-ce qu'on peut faire pour éviter de réinventer la roue à chaque fois ? Genre, pour éviter de recréer une API à chaque fois, pour éviter de faire des choses qu'on fait en tant que développeur, mais qui nous enquiquinent un peu tous. Et du coup, ça passe par du low-code et du no-code. Et aujourd'hui, c'est un peu mon créneau.
Ok, top. Ouais, plein de projets, c'est cool. Et effectivement, on reviendra après sur cette notion de no-code parce que je pense que ça intéresse pas mal de monde. On en entend de plus en plus parler. Alors, il y a peut-être des gens aussi qui ne savent pas encore ce que c'est ou des gens qui ont entendu ce terme un peu intriguant. Et du coup, ouais, on reviendra dessus après. Est-ce que tu peux nous refaire, enfin, détailler un peu ta scolarité ? Donc, tu nous as dit que tu es passé par EPITA. Qu'est-ce que ça t'a apporté en termes de connaissances techniques ou pas d'ailleurs ?
Pas mal de choses quand même parce qu'il y a souvent la question qui m'est posée, j'avoue, qui est de est-ce que ça vaut le coup aujourd'hui de faire un EPITA ou pas alors que tout le contenu est disponible sur Internet par exemple. Du coup, c'est quand même alors moi de mon côté, donc j'ai commencé à coder assez tôt. Je traînais beaucoup sur des forums, etc. Donc, on va dire que j'étais pas quelqu'un qui commençait dans le dev. Et pourtant, j'ai quand même fait une école de dev parce que je voulais, entre guillemets, professionnaliser. En tout cas, c'est à l'époque comment je le pensais. Professionnaliser mon code. C'est-à-dire que même si j'avais des clients en freelance pour qui je faisais du dev ou je faisais des sites web, des choses comme ça, mais je connaissais pas les bases en fait. C'est-à-dire que j'avais appris des trucs sur le site du zéro, je savais un petit peu comment ça marchait. Mais le fait d'arriver à EPITA, franchement, alors ça m'a coûté cher, c'est chiant parce que c'était 7-8 000 balles l'année. J'avais fait un mini prêt et en même temps, je faisais du freelance pour payer le truc. C'était super chiant. Mais franchement, je dois dire aujourd'hui que d'un point de vue tech, J'ai compris les bases, c'est-à-dire que j'ai compris en faisant du C comment marchait une machine, comment marchaient les pointeurs et compagnie. J'ai compris comment marchait la structure d'une machine, d'un processeur en passant par du binaire, les portes logiques et compagnie. Enfin, ça, c'est pour moi, c'était hyper passionnant et du coup, je maîtrise toute la chaîne, si tu veux, de au moment où tu bouges ta souris, qu'est-ce qui se passe vraiment à l'intérieur. Et ça, même si tu n'en as pas besoin tous les jours, mais quand tu es confronté à des problématiques de complexité et tout, c'est assez intéressant de le savoir. Et puis ça te stabilise en fait, ça te rend beaucoup plus fort sur tes appuis selon moi. Et deuxièmement, et je pense qu'on ne le dit pas forcément assez, mais c'est le réseau. Et en fait, moi, quand j'étais en deuxième année d'EPITA, bah, mon freelancing game, entre guillemets, il n'était plus le même parce que j'ai connu des gens qui étaient des anciens EPITA, qui avaient des besoins, pareil à l'époque, en WordPress, site web et compagnie. Bah, du coup, j'ai commencé à traîner un peu dans ce réseau. Ils m'ont mis en contact avec d'autres personnes. Du coup, je me suis mis à faire du freelance pour un député. Et du coup, j'ai bossé à l'Assemblée nationale en même temps que j'étais à EPITA. Et puis après, j'ai bossé pour d'autres personnes, notamment l'école de guerre économique. J'aurais jamais eu accès à ce réseau si j'étais pas à EPITA. Après, je ne dis pas que toutes les personnes à EPITA ont accès à ce réseau. Parce que, en fait, elles ont accès, mais elles n'en profitent pas. Et je pense que 90% des gens ne profitent pas de ce réseau. Mais moi, c'était un des éléments essentiels qui a fait mon parcours aujourd'hui.
Ok, et tu penses que ce réseau-là, c'est vraiment grâce à Epita ou c'est parce que tu t'es lancé dans le freelance game, comme tu dis, en parallèle?
Bah, c'est un peu des deux. Je pense que si j'avais juste fait Epita, ça m'aurait rien apporté de plus. Mais c'est parce que je faisais du freelance. Parce que j'étais hyper outgoing, donc j'allais parler sans problème à des anciens et j'allais leur demander à prendre des cafés, et parce que je faisais du freelance, que ça a marché. C'était pas une chose, c'est pas parce que j'ai fait Epita que j'ai eu toutes ces opportunités, mais ça y a contribué. Est-ce que je les aurais eues si j'avais fait Paris 5? Ouais, je me serais, je pense, assez bien démerdé pour l'avoir, quoi. Mais voilà, je pense qu'il y a une petite part de ça qui est liée à Epita, mais comme je dis, 90% des gens ne profitent pas de ce réseau, ils profitent pas des anciens et du coup, voilà, n'en profitent pas quoi. Mais voilà, moi c'était ça. Et puis il y a eu une autre chose aussi, c'est que j'ai fait partie de la junior entreprise de l'école, qui était dans le top 3 en France. Et du coup, j'étais le commercial dedans, donc j'ai pu aiguiser vraiment mes skills de commercial et ça aussi, ça m'a énormément apporté. Est-ce que ça vaut son prix? Je dirais au niveau de l'éducation purement, pas vraiment. Par contre, si t'en profites bien et que tu déploies vraiment le truc et tu te mets à fond, pourquoi pas quoi, en fait, pourquoi pas. Mais est-ce que j'aurais refait Epita aujourd'hui si je recommencerais? Faudrait que je me creuse la tête, mais peut-être que ouais, en fait. Parce que je me dis, j'aurais voulu maximiser toutes les chances de mon côté. Et du coup, j'aurais quand même fait Epita aujourd'hui, tu vois, aujourd'hui.
Ouais, ok. Et ouais, en fait, on sent vraiment que t'as deux casquettes. T'as la casquette du technicien qui s'y connaît un peu en développement, donc qui s'y connaissait avant l'école et qui a perfectionné, on va dire, ses compétences techniques et qui les a professionnalisées avec l'école. Mais t'as aussi cette casquette de commercial. Tu nous dis, voilà, je suis outgoing, j'arrive facilement à discuter avec des gens, j'arrive facilement à m'ouvrir, à aller au contact des gens. Et c'est vrai que c'est une qualité hyper importante. Parce que bah, moi je trouve en tout cas pour être passé par une école d'ingénieur, c'est vrai que la plupart des profils tech, et j'ai l'impression que c'est surtout le cas dans le domaine de l'informatique, bah, on est assez introverti, réservé. Alors le fait d'être introverti, ça ne veut pas dire forcément que tu es timide et que tu n'arrives pas à aller au contact des gens, mais juste avoir des skills en communication, savoir exprimer une idée, savoir aller au contact des gens, c'est vrai que c'est quelque chose. Alors c'est quelque chose qui se travaille, hein, c'est pas inné et c'est pas grave si à l'heure actuelle on a des difficultés à aller voir les gens. Mais en tout cas, c'est un truc sur lequel je pense c'est hyper important de travailler et je pense que ton expérience nous le confirme un peu dans le sens où sans ça, t'aurais eu un réseau, t'aurais eu beaucoup plus de difficultés à élargir ton réseau, quoi.
Ouais, totalement d'accord. Je pense que ces soft skills dont à l'époque je parlais sont hyper importantes parce que ça permet vraiment de donner enfin, de mieux packager qui tu es, entre guillemets, quoi. Et c'est hyper important parce que sinon, bah, c'est comme si par exemple une personne qui a fait une école de commerce sait un peu coder, bah, ça le met au-dessus de toutes les autres personnes qui ont fait une école de commerce parce qu'il a cette double casquette et c'est pareil pour le côté dev. Si t'as des fondations solides, ça c'est cool, c'est ce qu'on attend de toi. Mais en même temps, si t'as ce petit truc, ce que j'appelle le petit plus alpha, qui va faire la différence, et bah, ça change tout. Après, je dis pas que c'est Epita qui me l'a apporté. Mais en tout cas, le fait d'être entouré de gens hyper forts techniquement, ça m'a obligé à me démarquer sur ce point-là, parce que je savais que c'était pas sur la technique que j'allais faire la différence, par exemple. Donc du coup, ça m'a obligé à aller faire la JE, c'était aussi une appétence de mon côté. Je me suis inscrit à plein d'autres trucs comme ça qui m'ont aidé là-dessus. Et voilà quoi, je sais que ça a fait la différence en effet.
Et du coup, tu nous dis que tu t'es déjà lancé dans le freelancing en parallèle de tes études. Quelles sont, selon toi, les compétences qu'il faudrait avoir avant de se lancer? Ou en tout cas, à partir de quel moment, en termes de compétences, tu peux te sentir assez confiant pour te lancer et aller démarcher des clients?
C'est marrant cette question parce que je ne me suis jamais vraiment posé cette deuxième de à partir de quel moment tu te sens en confiance pour aller démarcher des clients parce que pour moi c'est la demande est tellement là en fait. Je pense qu'on ne réalise pas à quel point on a besoin de développeurs dans ce monde aujourd'hui et que si tu sais coder, tu as juste une compétence qui est extrêmement rare et du coup que tu peux aller la vendre dès que tu sais coder en fait. Donc pour moi... Je vais répondre par ta deuxième question avant. À partir de quel moment tu peux? Bah, dès que tu sais coder et dès que tu sens que tout ce que tu es en train de créer a de la valeur. Donc maintenant, définir la valeur. La valeur, c'est quand le marché a besoin de ça. Donc, typiquement, tu es en train de faire un petit script qui génère de l'audio, par exemple. Bah, s'il y a quelqu'un qui a besoin de ça, boum, c'est bon, tu peux te lancer. Tu es en train de faire une petite page front. Moi, je veux dire, si tu sais faire juste un tout petit peu de front, c'est bon, c'est parti, quoi. Tu vas sur Upwork, tu vas sur Malte, tu bouges ton réseau et c'est bon, tu sais faire. Et après, il ne faut pas, en revanche, se dire « Ah, mais moi, je ne fais pas de choses un peu faciles parce que je suis déjà à un level. » Non, il faut tout prendre dans un premier temps. Parce qu'en fait, et je vais arriver à la première question que tu as posée au niveau des skills nécessaires, parce qu'en fait, ce qu'on oublie et ce qui compte dans le freelancing, même si tu fais du freelancing dev, c'est que c'est moitié technique, moitié humain. Et vraiment moitié humain. Ça veut dire que c'est aussi important de bien communiquer avec son client, de bien comprendre ce qu'il veut, de bien expliquer ce qu'on a fait et de bien itérer avec le client que de coder vraiment. Et en fait, ça, je l'ai appris avec plein d'erreurs et je suis content de les avoir fait. Bon, ça m'a coûté cher parce que, évidemment, quand tu es freelance au début, tu te fais arnaquer, il y a plein d'autres trucs et si on peut en parler. Mais c'était l'apprentissage nécessaire pour comprendre qu'en fait, l'humain, à la moitié de la place dans du freelancing. Et ça, on a tendance à l'oublier en fait. Et qu'est-ce qui fait que tu vas être à 500 balles la journée, 700 balles la journée plutôt que 300 ou 200? Et bien, c'est cette composante-là qui, selon moi, va faire la différence. Alors évidemment, il faut que le code suive, hein, mais le fait de bien se vendre, de bien expliquer, de bien cadrer le projet, de bien interagir avec tes interlocuteurs, c'est ce qui fait que déjà une mission se passe bien et que tu as un prix plus élevé.
Et justement, tu nous parlais du fait que il faut pas se dire, ok, bah moi j'ai telles compétences qui sont assez poussées dans tel domaine, du coup je vais pas accepter les missions qui demandent moins de compétences, on va dire. Et en fait, je te posais la question parce que il y a pas mal de personnes qui me suivent et quand je discute avec des profils qui ont envie de se lancer dans le freelancing, ils me disent, voilà, est-ce que, enfin, je me sens pas encore assez compétent. Je vois qu'il y a des gens sur des sites de freelance qui se font payer 500 à 600 euros la journée. Ça veut dire que ça doit être des experts là-dedans. Moi, je me sens pas encore légitime. Et donc ça, c'est la première partie en fait de l'interrogation. Et la deuxième partie de l'interrogation, c'est aussi, bah, en fait, pourquoi moi je serais légitime sachant que je ne sais que entre guillemets faire des landing pages ou des scripts assez basiques, on va dire. Pourquoi moi je serais légitime alors que ce genre de truc, on sait les faire avec des outils no code. Et je pense que là, ça peut faire une bonne transition avec ce domaine du no code. Du coup, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu la définition, ou plutôt ta définition du no code, et comment tu vois ça par rapport à des développeurs qui pourraient se poser la question, bah, en fait, pourquoi moi je suis légitime sachant que mes compétences, bah, quasiment tout ce que je sais faire, on sait le faire en no code.
Alors, moi aujourd'hui, tu vois, si j'avais pas pris ce virage du no-code et que, tu vois, par exemple, si j'étais freelance développeur aujourd'hui et que, tu vois, on me mettait en... ou moi-même, je me mettais en confrontation et en VS avec du no-code, bah, mon discours serait clair. Ce serait de moi, je suis... Alors, tu vois, moi, en fait, je suis quelqu'un qui va te permettre de passer d'un point A à un point B. Le moyen, je sais que c'est important pour toi, tu vois. Toi, client, je sais que tu m'as dit, ouais, tu as une stack en Vue.js ou alors tu as tu veux faire ça en tel et tel langage, je sais pas quoi. Ok. Maintenant, je vais moi, je suis ton guide qui va te permettre de passer de A à B, et je suis aussi la personne qui va faire. Maintenant, si tu me dis qu'il y a une stack en no-code qui va te permettre de faire ça mieux, eh bah, ben pas de souci. Tu vois, genre je peux t'aider à le faire aussi en no-code. C'est par exemple parce que si, enfin les meilleurs no-codeurs sont quand même les développeurs. Faut pas l'oublier parce que nous on a une compréhension quand même plus en profondeur de tout ça. Je sais pas si t'as vu les bons utilisateurs de Webflow aujourd'hui, qui a un espèce d'outil no-code en stéroïde. C'est des fronts qui savent bien gérer le front. Et donc aujourd'hui mon discours ce serait que moi je suis quelqu'un qui va te permettre de passer d'un point A à un point B. Et en fait viens, on parle pas du moyen, on parle de ce que toi tu veux. Et en fait, c'est ça le discours qu'il faut avoir. Et en fonction de ce qu'il veut, bah, on va choisir le moyen. Est-ce qu'on va faire je sais pas, du Nuxt, du Vue, du React, ou est-ce qu'on va passer sur du Webflow, du Bubble ou quoi que ce soit? Et en fait, il va y avoir des points négatifs, des points positifs dans chacun des solutions. Et du coup, moi, j'aime bien m'abstraire du moyen quand je suis en train de discuter avec un client, parce que en fait, lui, ce qu'il veut, c'est du résultat. Donc, que ce soit fait avec telle ou telle techno, bah, on s'en fout un peu. Maintenant, si nous, on est spécialisé dans une techno, bah, évidemment, on va aller plus vers quelqu'un qui demande spécifiquement cette techno, quoi. Donc, moi, je dirais, en fait, heureusement que le no-code est là pour les devs, parce que ça nous évite de se retaper des choses qu'on fait et refait et refait et refait, parce que bah, y a des choses qui le font pour nous avec trois clics, quoi.
Ouais, et c'est marrant ce que tu dis parce que, en fait, moi j'aime bien voir la construction d'un logiciel un peu comme la construction d'une maison, enfin, ou d'un logement, un appartement, ou un building, enfin, une cabane ou un building de plusieurs étages. Et en fait, bah, d'après ce que tu dis, on pourrait clairement comparer la création d'un logiciel à la création d'un logement dans le sens où, si par exemple, moi, ce que je veux, c'est construire une cabane dans les bois, ou au contraire, c'est construire un immeuble, enfin un building à Dubaï, bah, je ne vais pas forcément utiliser les mêmes outils. Et en fait, peu importe les outils que je vais utiliser, parce que moi, en tant que développeur, bah, je connais les principes fondamentaux de la création d'une cabane ou d'un building. C'est-à-dire que je sais qu'il faut mettre tel nombre de murs, faut que je mette des murs porteurs à tel endroit, faut que je mette un toit, faut que je mette la salle de bain à côté de telle ou telle pièce. Et en fait, ça, bah, peu importe que tu utilises une grue ou alors une pelle et un marteau, au final, tu sais comment agencer les trucs, tu sais comment construire ce que tu veux construire. Et après, les outils, bon, bah, c'est à toi de voir les plus adaptés. Et effectivement, des fois, en fonction de ton projet, ce sera plus adapté d'utiliser un outil no code parce que pour une raison X ou Y, hein, parce que peut-être que toi, tu as plus besoin d'un truc fait à la va-vite, pas 100% personnalisé, et surtout, tu as besoin d'un truc fiable et rapide à mettre en place. Ou au contraire, tu as besoin d'un truc 100% personnalisé, et là, peut-être que tu vas moins t'orienter vers des outils no code. Et est-ce que, ce serait quoi, selon toi, les différences majeures entre un outil no code et un outil et des outils de code? En gros, ma question c'est qu'est-ce qui me ferait plus pencher vers un outil no code ou vers du dev from scratch?
C'est intéressant cette analogie parce que je la prends souvent, celle de la maison, et je prends souvent l'architecte, le peintre et tout, et je trouve ça me parle énormément. Donc c'est, je pense que la réponse c'est la même. Qu'est-ce qui te fait utiliser un framework VS aller from scratch en fait, dans le code, hein. Qu'est-ce qui te fait aujourd'hui, si on prend du back-end, utiliser un Express VS coder utiliser l'API de Node.js pour faire tes call to? Bah la rapidité et la personnalisation. En fait, si tu veux aller vite, tu vas prendre le framework, mais évidemment, tu vas perdre en personnalisation. Si tu veux aller sur de la micro-personnalisation, sur des éléments techniques qui ne vont pas être permis par le framework, bah, tu vas y aller from scratch. Et c'est un peu la même question. Pourquoi tu vas utiliser, je sais pas, Vue.js avec un back-end, je sais pas, qu'est-ce qui fait que tu vas utiliser une Jamstack plutôt qu'un Webflow? Bah parce que tu as plus de personnalisation dans l'un que dans l'autre. Dans Webflow, t'as le max que tu peux faire, c'est un CMS, c'est cool. Dans une Jamstack, en fait, tu peux tout faire. Demain, tu as besoin de faire une application mobile à côté, boum, tu vas aller vers quelque chose qui va être plutôt vers du Jamstack parce que tu sais que le back-end, ça va être le même pour le front que pour l'app mobile. Et du coup, en fait, ça va être le niveau de personnalisation dont tu as besoin. Et il y a une chose dont on n'a pas parlé, mais c'est voir où est-ce qu'il en est ton client. Si ton client, il est habitué à créer des buildings à Dubaï, c'est son taf, il connaît très bien le marché et qu'il sait exactement ce qu'il veut, pas de souci, on t'écoute, on y va. Si ton client, c'est un nouveau, c'est son premier bien, il commence à construire sa maison, il connaît rien du terrain, il sait à peu près comment ça marche, là, tu vas avoir un rôle de guide et c'est toi qui vas l'aider à choisir ses outils. C'est pour ça que juste développeur, c'est peut-être pas le bon mot parce qu'il y a quand même une notion d'architecture, etc. Mais surtout, pourquoi je parle de ça, du deuxième persona qui va être à apprendre et à faire petit à petit, c'est que pour lui, peut-être que ça vaut le coup de prendre un framework en fait, d'un truc déjà tout fait, parce que ça se trouve, et bah, sa cabane, au bout de 2 mois, il va totalement la détruire pour en reconstruire une nouvelle parce qu'il aura appris des choses. Et dans ce cas-là, il y a une notion d'investissement qui est en jeu, qui est combien tu es prêt à investir pour tout reconstruire demain? Et là, dans ces cas-là, il faut aller sur des choses qui vont rapidement. Donc, en fonction du client, on va choisir aussi des stacks différents. Donc, des stacks no-code, parce que ça va vite. Peut-être qu'on va les choisir si on sait que le projet, on va peut-être le déconstruire et le reconstruire demain. Et c'est ce que je conseille énormément aux entrepreneurs aujourd'hui. Si demain, vous voulez lancer une landing page, allez pas à tout refaire à la main et à ouvrir votre éditeur de code. Non, prenez un truc qui fait des landing pages aussi rapidement, parce que vous savez qu'il y a de grandes chances que votre landing page ne marche pas, que vous ayez à tout reconstruire. Une boîte comme Total, qui est bien implantée, qui sait très bien qu'il y a une stack, ou une boîte comme Conto, bah, ils vont pas peut-être pas utiliser ce type d'outils parce que eux, ils ont déjà un design system, ils ont déjà plein de choses qui peuvent, des composants qu'ils peuvent réutiliser. Et donc ça dépend aussi du client.
Et là, en fait, d'après ce que tu nous dis, donc tu te places du point de vue du freelance, et en fait, tu as plus un rôle de conseiller, et tu vas venir conseiller à ton client tel ou tel stack, et ensuite le faire. Mais ça, du coup, ça suppose que tu aies plusieurs compétences. En fait, d'après ce que tu nous dis, tu vas chercher des clients, et ensuite tu les conseilles. Mais ça, effectivement, ça suppose que tu as plusieurs compétences, à la fois de dev et de no-codeur, si on peut les appeler comme ça. Toi, si tu devais te lancer demain en freelance, ou plutôt ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut se lancer en freelance, est-ce que ce serait justement de prendre cette position de conseiller envers ton client et de lui proposer plusieurs solutions et ensuite d'implémenter ces solutions, ou au contraire, de se nicher dans un domaine, donc soit dans le domaine du no-code et de bien maîtriser, je sais pas moi, un outil, deux outils ou alors un ensemble d'outils no-code et ensuite aller chercher des clients qui ont besoin de tes compétences, ou au contraire essayer de rester le plus large possible pour pouvoir aider des clients parce que justement bah, tu as un spectre de. Tu as une vision plus large et tu peux plus facilement les conseiller. Est-ce que tu te positionnerais plus en tant qu'expert ou généraliste qui arrive à conseiller un client?
C'est marrant, je ne l'ai pas forcément vu exclusif, ces deux choses-là. Pour moi, si tu es freelance, enfin selon moi, en fait, il y a plusieurs types de freelance, évidemment. Il y a les freelances que j'appelle les freelances déguisées, qui sont des employés d'une boîte et c'est juste qu'on a mis un contrat de freelance. Et là, ça change tout, hein, parce que du coup, en fait, on travaille pour une boîte, il y a des guidelines, etc. Et puis il y a le freelance qui bosse sur plusieurs projets en même temps, qui va changer de projet tous les 2-3 mois, qui bosse de mission en mission. Si je parle de celui-là, en fait, il y a pour moi, c'est pas forcément exclusif ces deux choses-là. Pourquoi? Parce que je pense qu'il faut être expert et que c'est l'expertise qui fait la force, hein. C'est-à-dire, quand je dis expert, c'est que sur les yeux d'une personne. Personne ne veut bosser avec quelqu'un qui est pas bon, qui est moyen bon partout, en fait. Si on parle de l'opérationnel, hein, si on parle de quelqu'un qui code quelque chose, on veut toujours bosser avec quelqu'un qui est hyper bon. Demain, tu prends quelqu'un qui vient changer ton lavabo, même si, admettons, tu as une maison géniale, tu veux quand même un mec qui sache bien changer le lavabo, quoi. T'as pas envie de prendre quelqu'un qui sache aussi bien faire la peinture, que changer le lavabo, que réparer ta toiture. Tu veux quand même un mec qui sache changer un lavabo. En revanche, si ce mec-là sait te dire, bon, votre lavabo, là, il est un peu ancien, il vaut mieux le remplacer, je le fais cette fois-ci, mais honnêtement, dans 3 mois, il faudra le remplacer. Est-ce que ça vaut le coup qu'on le remplace dès maintenant? Bah, en fait, tu veux ça, quoi. Tu veux les deux, en fait. En fait, il faut être expert, mais en même temps, il faut avoir ce devoir de conseil qui est hyper important. Et Je dis pas qu'il faut aller conseiller le client sans qu'il ait rien demandé, faut aller le challenger. Et je pense qu'il faut qu'on s'enlève en tant que de freelance développeur comment je dirais ça? En fait, cet endroit-là où en fait nous on se place en dessous du client parce que nous on répond à un besoin, faut se placer au même level que le client où on va le challenger sur ses choix. Faut lui poser des questions. Pourquoi vous avez choisi cette stack? Pourquoi le faire comme ça? Qu'est-ce qui s'est mal passé avant? Pourquoi dans cette direction maintenant? Etc. Et en fait, il va lui-même répondre à des questions. Et faut moins parler vous dans un premier rendez-vous, par exemple. Et il va lui-même répondre à des questions et vous allez comprendre la maturité du client sur ce truc-là. Et en fait, vous avez vous, quoi qu'il arrive, plus d'infos là-dessus parce que vous êtes expert en fait, vous connaissez le sujet. Donc moi je dirais que c'est pas forcément exclusif et que par contre de là où il faut commencer, il faut pas commencer à se dire oh je vais commencer à conseiller le client. Si demain je devais commencer en freelance, bah je commencerais par l'expertise et petit à petit je deviendrai conseiller parce que bah j'aurai plus en plus d'expérience et j'aurai vu que la plupart des projets que j'ai fait avant ont failé pour telle et telle raison et petit à petit j'emmagasine de l'expérience. Je sais pas si je suis clair.
Ouais, carrément, c'est super clair. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que j'ai l'impression, en tout cas pour moi, c'est la même trame de raisonnement qu'on devrait avoir quand on veut choisir un langage de programmation. Parce que il y a aussi plein de gens qui viennent me voir et qui me disent, Quentin, j'ai envie d'apprendre à coder, j'ai envie de me lancer dans le développement, mais je sais pas quel langage choisir, qu'est-ce que tu me conseilles? Et à cette question, je sais jamais quoi répondre parce que c'est hyper personnel et ça dépend vraiment des besoins. Et si on reprend l'analogie de l'architecte qui a besoin de construire un truc, bah c'est comme si on me disait quels outils je dois choisir pour construire une maison. Bah oui, mais c'est quoi ta maison? Est-ce que c'est une cabane en bois ou est-ce que c'est un immeuble de plusieurs étages? Et en fonction de ça, il y a des outils qui sont plus adaptés. Alors, on peut quasiment tout construire avec n'importe quel outil, mais il y a des outils qui sont plus adaptés, qui vont te rendre la vie, qui vont te faciliter la vie ou qui vont. Rendre le process plus rapide. Et je trouve que ce raisonnement de se dire avant de travailler sur un truc, bah, quels outils je vais devoir utiliser, c'est hyper intéressant et effectivement, je trouve que ça marche aussi bien pour commencer à travailler sur un projet avec un client que choisir son langage pour travailler sur un projet. Ok, et du coup là c'est donc on a pas mal parlé du point de vue du freelance, le Shubham freelancer. Je sais que t'as pas mal de projets aussi à côté, donc t'as aussi une casquette d'entrepreneur, enfin moi c'est comme ça aussi que je te vois. Est-ce que tu peux nous parler un peu des projets que t'as mis en place et comme ça après on pourra essayer de comprendre quel type d'outils t'as utilisé, pourquoi tu les as utilisés, et comme ça permettra à des gens qui ont envie de lancer des projets, bah, d'essayer d'y voir un peu plus clair pour trouver quels outils utiliser.
Ouais, alors moi je suis un gros fan de side project en effet parce que je vois là j'ai cette fibre un peu entrepreneuriale où je me dis bah faut tester des trucs, faut lancer des trucs et puis en fait à l'époque c'était bah moi j'ai le power, je sais coder donc en fait je peux aller beaucoup plus vite que les autres. Aujourd'hui ça change un peu avec le no code mais quoi qu'il arrive en tant que développeur tu as toujours plus de power parce que tu fais les choses beaucoup plus en détail et avec beaucoup plus de personnalisation, alors que le no-code, c'est juste un framework qui te permet de répliquer des choses plus facilement, hein, c'est rien de plus. Bah, j'en ai fait, franchement, depuis Epita et même depuis avant, j'en ai fait tellement et je me suis planté sur tellement de choses. Et c'est que très récemment, je commence à réussir mes side projects. Et si j'avais quelques apprentissages là-dessus, j'ai toujours commencé par la tech sur mes side projects. J'ai toujours. Oh, j'ai une idée, putain, bah, trop bien, on commence à ouvrir l'éditeur de texte et de code et on commence à tester le truc, proof of concept, est-ce que ça fonctionne ou pas? Et après, dès que ça fonctionne, bah trop cool, bah maintenant qu'est-ce qu'on fait? Ok, bon, on va peut-être créer une landing page et rendre le truc plus viable. Ok, bon, on va peut-être créer la proposition de valeur et puis après on croise les doigts pour que ça fonctionne. Et ça a toujours planté, en fait, ça n'a jamais marché comme ça. Pourquoi? Parce que je prenais le truc dans l'autre sens, je partais de la solution et j'allais vers le problème. Plus j'avance aujourd'hui je dirais dans ma carrière ou dans ma vie d'ancien dev et de dev aujourd'hui, plus je comprends que en fait la notion de produit et aujourd'hui typiquement un des jobs en freelance que je fais, c'est je suis product manager chez Conto qui est une néobanque. Et justement, produit, c'est un boulot qui est hyper fascinant parce que tu pars jamais des solutions, tu pars toujours des problèmes. Et ça m'a changé ma manière de réfléchir et de faire mes side projects parce que maintenant, bah, je pars toujours des problèmes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si je te parle des side projects que j'ai fait jusque-là et qui marchent, donc par exemple Notion Automation, qui est une solution d'automatisation de Notion, on est parti d'un problème. Le problème, c'était que sur Notion, il n'y a pas de solution d'automatisation sur Zapier. Donc il n'y a pas de connecteur Zapier, par exemple. C'est un logiciel pour automatiser des choses. Et boum, on est parti du problème, on a utilisé la tech pour résoudre ce problème-là. Blazsumo, pareil, les gens ont du mal à partager du contenu sur LinkedIn en boîte, avec leur boîte. Boum, on répond par la tech. PrevuePanda, ce qui est un logiciel, enfin qui est un software aujourd'hui qui permet d'animer des messages sur LinkedIn. Quand on envoie du cold messaging, alors je sais que ça fait plein de buzzwords, mais en gros, quand on contacte quelqu'un pour la première fois, pour inciter la personne à cliquer, boum, ça part d'un besoin. Et en fait, s'il y a une chose que j'aurais qui est le plus grand apprentissage que j'ai fait en lançant et en faillant plein de side projects, c'est rien coder avant d'avoir le besoin et avant limite d'avoir quelqu'un qui serait prêt à acheter. Et c'est hyper contre-intuitif. Contre-intuitif pour un dev et pour quelqu'un qui est en fait quelqu'un qui s'est créé. Parce que tu te dis, attends, je passe mon temps à parler avec des gens pour savoir s'ils le veulent vraiment. C'est quand même chiant. Mais en fait, croyez-moi, ça peut vous économiser des mois et des mois de dev. Et surtout que nous, on est des gens qui, quand je dis nous, c'est nous développeurs, on est des gens quand même, nous sommes quand même des passionnés qui marchons à la passion. Et que souvent, quand on a une idée, on est hyper motivé et on fait le truc. Et puis petit à petit, ça descend jusqu'à avoir un autre pic de passion et de kiff qui va arriver via un autre projet. Et si on veut éviter ce truc-là et éviter un cimetière de side projects qui n'ont jamais été lancés, et bah toujours partir du besoin et se dire, oh, j'ai cette idée, bah maintenant je contacte 10 personnes qui, je pense, ont ce besoin-là et je valide mon idée avant de créer, de coder quoi que ce soit. Et c'est vraiment le gros apprentissage que vraiment j'ai compris ces 2-3 dernières années, quoi.
Ok. Et ouais, non, hyper intéressant et surtout, je suis hyper d'accord avec toi. Mais du coup, ça soulève, enfin, en tout cas, quand j'entends ça, moi, ça soulève une problématique qui est que, ou plutôt deux problématiques. La première, c'est comment est-ce que tu fais pour trouver pour trouver des problèmes et ensuite réfléchir à une solution. Et deuxièmement, le fait comme ça d'attendre ou d'aller chercher le problème, hein, mais le fait d'attendre qu'un problème survienne et ensuite de se dire, ah bah tiens, là il y a un problème, du coup je vais créer une solution, bah est-ce que justement t'es pas un peu frustré de te dire je bosse sur des choses qui ne me plaisent pas forcément, dans le sens où les problèmes qui me viennent à moi, bah c'est peut-être pas des domaines qui m'intéressent, c'est peut-être pas je vais peut-être pas créer des solutions dans des domaines qui m'intéressent. Donc d'une part, comment tu fais pour trouver des problématiques et ensuite réfléchir à des solutions? Et est-ce que tu as déjà senti cette frustration un peu de bosser dans des domaines qui ne t'intéressaient pas parce que voilà, tu as saisi une opportunité, tu t'es dit, bon, je vais aller là-dedans, même si ce n'est pas un domaine qui me passionne?
Moi, je pense qu'il y a. Pour savoir exactement ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas, je pense que ça change tout le temps et qu'on ne sait pas exactement ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas avant d'avoir tout découvert. En fait, le truc, c'est que. Bon, déjà, premièrement, on n'est pas là à méditer et à se dire on attend que les problèmes viennent à nous, hein, on va les chercher. Donc, ça veut dire qu'on parle à des gens, qu'on rencontre des gens, qu'on leur demande leur frustration et en fait, on entend ça. Tu genre, putain, j'arrive pas à connecter mon Salesforce à ça. Alors c'est cool, hein, il y a ce problème, mais c'est juste c'est un problème qui est pas sexy en fait. Donc moi je vais pas y aller par exemple. Il y a un avocat qui me dit ouais moi quand j'envoie des documents, j'envoie des gros Word, je mets des V1, V2, V3 sur les docs, c'est horrible. Bon cool, mais ça m'intéresse pas, c'est pas sexy pour moi, j'y vais pas. Et en fait plus on et c'est vraiment cette question d'un peu d'archéologue quoi. J'aime bien utiliser cette analogie où moi, en fait. On est là, on fait ce qu'on fait tous les jours, mais on a quand même, à un moment donné, un archéologue, il va aller chercher en se disant qu'il va peut-être trouver quelque chose, mais il va continuer à chercher quand même. Mais il va surtout choisir l'endroit où il cherche. Et ça, c'est intéressant. Ça veut dire que on n'attend pas que le problème vienne à nous. Par contre, on va le chercher. Et on va le chercher là où ça nous intéresse. Donc, ton centre d'intérêt, peut-être que, par exemple, tu es passionné par la musculation et du coup, tu vas parler avec des gens qui sont dans le monde de la muscu et tu vas regarder leurs problèmes. Pareil pour le crossfit ou des choses comme ça. T'es passionné par les finances personnelles, tu vas aller chercher ça. T'es passionné par, je sais pas, Instagram et tu vas aller regarder où est-ce que les Instagrammeurs ont leurs problèmes. T'es passionné par, voilà, le monde du social media et boum. Et en fait, je pense que c'est vraiment, faut avoir cette attitude d'archéologue qui va aller chercher en se disant, je vais aller chercher le problème, mais là où il m'intéresse. Plutôt que se dire, je vais créer la solution pour un problème qui n'existe peut-être pas. Et en fait, pour moi, c'est évidemment qu'on ne bosse pas sur des trucs qu'on n'aime pas, parce que bah, on ne va pas être motivé. Et on peut essayer, hein, mais on va voir qu'on va vite déchanter le truc. En revanche, je suis certain qu'à un moment donné, en cherchant, on trouve des problèmes qui sont plus intéressants que d'autres. Si je te dis, il faut en fait faire une solution pour les avocats qui a un monde hyper normé, hyper bureaucratique, et pour aller leur permettre de faire des e-signatures, etc. Pour moi, c'est pas très sexy. Par contre, tu me dis, bon, on va faire un bot TikTok et Twitter qui va synchroniser tout pour aller aider une boîte qui va faire du multi-publishing et qui derrière va agréger toutes ses stats. Moi, il y en a un qui m'intéresse bien plus que l'autre parce que moi, je sais que ces domaines-là m'intéressent. Et je pense qu'on peut aller chercher ces problèmes-là, là où ça nous intéresse.
Ouais, ok, et ouais, hyper intéressant ta métaphore de l'archéologue. Et puis c'est vrai que au final, je pense que ça se fait un peu tout seul, dans le sens où tes passions, bah, par définition, c'est des choses, c'est des domaines sur lesquels tu essayes de passer un maximum de temps. Et donc forcément, comme tu dis, tu discutes avec des gens, tu rencontres des gens, et ça se fait assez tout, enfin, ça se fait de manière assez automatique, mais effectivement, il faut aller creuser, il faut prendre sa pelle, ses outils, puis commencer à fouiller un peu. Et ça, effectivement, c'est peut-être quelque chose qu'en tant que développeur, on a moins l'habitude de faire parce que, comme tu disais juste avant, on est plus focus sur la création, la technique, que réfléchir en amont à est-ce que ce que je suis en train de créer, ça résout un problème, quoi.
Totalement. Et puis il faut se poser la question de pourquoi on le fait, pourquoi on veut créer une solution. Et en fait, moi, je sais que. Et évidemment, c'est pas du jour au lendemain que j'ai compris ça, mais en fait, je voulais créer des solutions pour aider les gens, en fait. Tu vois, je voulais coder des trucs pour que ça aide les gens et pour que ça leur permette de faire X, Y, Z. Et souvent, je partais des solutions en me disant ça va aider les gens, et en fait, ces gens-là, ils n'existaient pas. Et du coup, je me disais merde, putain, j'ai perdu du temps, en fait, à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Et du coup, bah, maintenant, je me dis, bah, écoute, je vais aller chercher les problèmes et je vais voir si ces gens-là m'intéressent. Et puis, je vais créer des solutions pour eux. Et en fait, le fait d'engager une discussion et leur demander leurs problèmes et de créer quelque chose, oh, ils vous sont tellement reconnaissants. Et puis, ils vous recommandent. Et puis, ils payent. Et puis, ils restent payants. Et puis, ils ont l'impression d'avoir un pouvoir parce qu'ils vous aident à eux builder la solution de leur rêve. C'est génial, en fait. Il y a tout à gagner. Par contre, pour moi, l'élément le plus compliqué pour nous, en tant que développeur, bah, c'est d'aller trouver ces gens. C'est vraiment d'être assez patient pour aller parler avec des gens. Et ça, en fait, et comme tu le disais, c'est pas évident, statistiquement parlant, pour beaucoup de développeurs de se dire, bon bah je vais aller entamer des discussions avec des gens pour connaître leurs problèmes, en fait. Et pourtant, les gens adoreraient ça, en fait. Aujourd'hui, vous allez voir n'importe quel CMO, marketeur, CEO, dire, bon, raconte-moi tes problèmes. Il va adorer faire ça, en fait.
Ouais, carrément. Ok. Hyper intéressant. Et donc justement, là, on est face à un profil qui vient de discuter avec des personnes, qui vient de trouver un problème. Et là, il se dit, ok, bon, là, je viens de cerner un problème, je vois un peu comment résoudre ce problème, j'ai une idée de la solution. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que tu lui conseillerais? Est-ce que il y a des outils, alors imaginons hein, qu'ils partent sur une solution no code parce qu'ils se disent voilà que là on bosse avec une startup ou alors c'est un pote qui a envie de monter sa startup, on n'a pas forcément un gros budget à allouer, on a plus du temps à investir plutôt que de l'argent. On sait qu'il y a un problème, on a une idée de la solution, mais bon en même temps on n'est pas 100% sûr que ça marche et je pense qu'on l'est jamais à 100%, donc on va pas prendre le risque d'investir dans un gros projet avec du code, avec des développeurs, etc. On en est à ce point-là. Qu'est-ce que tu conseillerais à ce profil-là? Est-ce qu'il y a des outils, en fait, no code, qui sont plus adaptés? Enfin, en gros, si par exemple je me dis, ok, là, ma solution, c'est un site web, c'est une application, est-ce qu'il y a des outils no code qui sont plus adaptés que d'autres? Est-ce qu'il y en a qui se démarquent vraiment par rapport aux autres? Ou est-ce que c'est vraiment... Enfin, comment tu choisirais tes outils?
Moi, je pense que pour le profil exact que tu as décrit, Je pense que nous, les développeurs, nous, les outils no-code qu'on va utiliser, ça va plutôt être pour des trucs genre landing page et compagnie, des trucs qu'on sait qu'on va peut-être pas, enfin, qui vont peut-être pas marcher. Par exemple, voilà, là j'ai quelqu'un qui me dit, Shubham, il y a moyen de builder une extension Chrome pour ce logiciel et ça va aider la plupart des gens parce que X, Y, Z. Ok, cool. Maintenant, la première chose que je vais faire, c'est me poser la question, est-ce qu'il y a d'autres gens qui ont ce problème? Et deuxièmement, je vais valider, techniquement parlant, est-ce que en fait c'est facile de builder une extension Chrome qui fait ça, admettons. Donc, en parallèle, je lance une landing page pour réfléchir sur la proposition de valeur de quelle va être en fait la solution, de à quoi va répondre ma solution. Donc en fait, tu te dis, bah, par exemple, ça va permettre d'extraire les contacts de tel et tel site. Ok, très bien. Après, tu lances cette landing page, c'est-à-dire que tu la lances dans ton réseau, tu contactes des gens sur LinkedIn, tu publies sur des sites, tu potentiellement lances un product hunt en te disant que ça arrive bientôt. Tu regardes le nombre de personnes qui sont intéressées et en parallèle, bah, tu vas vérifier ton proof of concept. Donc, ce que j'appelle le proof of concept, c'est la faisabilité technique. Donc, moi, le no-code, je vais plutôt l'utiliser sur la landing page. Et donc là, je vais utiliser des solutions comme Swipe Pages, par exemple, qui permettent de créer des landing pages AMP, le nouveau format de Google, très rapidement, ou alors des trucs comme Landen ou j'utilise pas forcément Webflow pour ça parce que c'est trop lourd, mais le but c'est juste de lancer le plus rapidement une landing page. Une fois que j'ai ça et qu'il y a des gens d'inscrits, là, bah en fait, moi en tant que développeur, je sais que je vais be aller beaucoup plus vite pour construire cette extension Chrome en code que en no code. Donc pour moi, la solution ça va être du no code par exemple. Donc moi, pour nous développeurs, je dirais que le no code va surtout servir à lancer des landing pages rapidement, à faire des proof of concept très rapidement pour éviter de coder. Mais dès qu'on a quelque chose où En fait, notre facteur différenciant, c'est qu'on sait dev. Donc, en fait, on se dit, si moi j'ai trouvé un problème que je peux répondre via du code, je vais certainement coder la solution. En revanche, pour pouvoir la marketer, pour pouvoir savoir s'il y a du besoin, je vais utiliser du no-code.
Super. Donc là, du coup, c'est pour quelqu'un qui sait un peu, enfin, qui a déjà des compétences en code. Et en fait, là, avec ta réponse, je suis en train de me dire qu'il y a aussi pas mal de profils qui ont comme ça des idées. Alors, ça peut être des idées, comme tu disais au début, que tu as eu, parce que voilà, t'es un maker, t'es un créateur, t'as une idée, t'as envie de la mettre en place, et que t'as pas forcément réfléchi. Ah, est-ce que cette idée, est-ce que cette solution répondait à un problème ou pas? Ou ça peut être quelqu'un qui, voilà, a découvert un problème et qui a une idée de la solution. Mais dans les deux cas, c'est quelqu'un qui n'a pas spécialement de compétences en code. Ou alors peut-être qui sait faire du développement mobile, mais pas du web ou inversement. Et est-ce que justement tu trouves que le no-code, c'est aussi intéressant? Parce que là, depuis tout à l'heure, on parle du no-code, mais d'un point de vue d'un développeur. Qu'est-ce que tu penses du no-code? D'un point de vue de quelqu'un qui ne sait pas coder, est-ce que pour toi c'est aussi intéressant, voire même plus intéressant, ou est-ce que c'est moins intéressant, ou en tout cas, est-ce que ça peut, dans une certaine mesure, substituer un peu des connaissances en programmation?
Ouais, alors c'est là où le no-code prend toute sa prend tout son sens, c'est quand tu sais pas dev. En fait, c'est là où c'est incroyable. C'est-à-dire que par exemple là, tu sais pas dev, tu vois le problème, tu vois que la solution serait ça. Au lieu d'aller passer 6 mois à chercher un dev ou toi apprendre à coder, bah juste fais ton MVP, donc la version minimale de ton produit, et tu peux le faire par exemple sur Adalo. Adalo, c'est une solution géniale qui permet de créer une application mobile. Tu as Bubble qui permet de créer des web apps très facilement. Tu as Glide qui littéralement, tu mets un spreadsheet et ça te compile une app. C'est quand même assez incroyable. Et ça, tu peux faire tes premières versions d'app avec ça. Et en fait, c'est génial aujourd'hui le no-code parce que c'est. Je dirais que c'est une manière hyper intéressante de s'intéresser au code par la création. Parce qu'à l'époque, si tu veux, quand je dis à l'époque, c'est il y a quelques années, quand tu voulais commencer à coder, bah, tu commençais toujours par un écran noir et à faire du printf en C. Tu vois. À l'époque, c'était ça. Puis après, tu as eu des boîtes comme Le Wagon ou des gens qui ont commencé à faire des trucs assez cool où, en fait, pour commencer à coder, bah, tu faisais des trucs un peu sympas ou tu faisais déjà un site web. Maintenant, pour commencer à coder, Bah, tu peux déjà commencer à comprendre le if-else, la logique sur Bubble. Tu peux déjà commencer à comprendre des filtres, tu peux déjà commencer à comprendre des listes, tu peux déjà comprendre comment marche un login. Et puis en fait, peut-être que ça peut être un super moyen pour un jour se mettre à coder, pour comprendre toutes les limitations que le no-code a, et pour après se dire, ok, je comprends la logique des booléens, je comprends la logique des arrays, je comprends la logique de tout ce qui est une liste, d'une structure de données. Maintenant, je vais passer au level supérieur. Donc c'est bien parce que ça réduit aussi la marge d'escalier parmi quelqu'un qui ne sait pas coder à quelqu'un qui va devenir développeur. Bah, le no-code, ça peut être un middle ground assez intéressant. Je ne dis pas que c'est le meilleur, mais ça peut être intéressant.
Ok, super. Et ouais, c'est vrai que j'avais jamais vu ça comme ça, mais maintenant que tu le dis, alors moi j'ai très peu touché au no-code, hein, mais d'après ce que je connais de ce monde-là, c'est vrai que c'est, on peut clairement le voir comme une façon de rentrer dans le monde du code et de se dire, bon ben, ok, j'essaye de comprendre les concepts un peu de base et de voir ça un peu comme un jeu, tout comme. Bah, on voit, hein, tu sais, y a plein d'applications sur mobile ou sur téléphone, ou même des trucs encore plus pour les enfants, des robots comme ça qui se programment en glissant des cases, en les mettant les unes à côté des autres, en créant des boucles, etc. Et bah, au final, ouais, ça permet de créer un programme, mais sans connaître de langage de programmation en particulier, et c'est clairement une façon parmi d'autres pour se lancer dans la programmation, parce que c'est vrai que. Comme tu disais, ça peut être assez traumatisant de commencer directement par le C. Alors c'est hyper bénéfique, hein, parce que voilà, tu comprends exactement ce qui se passe derrière, etc. Mais ça peut être aussi traumatisant et on peut penser en fait que la programmation, le développement, bah, c'est pas fait pour nous, parce que justement on a commencé par là et qu'on n'a pas réussi à aller plus loin et du coup c'est dommage quoi.
Ouais, totalement.
Et super, bah écoute, je pense qu'on a une bonne vision du no-code et de tes projets, les projets que tu as montés avec du no-code. Merci en tout cas pour ton retour d'expérience. Avant, j'aurais une dernière petite question. Alors déjà, tous les outils no-code, je vais les mettre dans la description de cet épisode. Dernière question, est-ce que tu aurais une source particulière qui t'a inspiré, peut-être un livre? Un podcast ou un film, peu importe, quelque chose qui t'a beaucoup inspiré dans ton voyage entrepreneurial et que t'aimerais partager aux auditeurs.
Ouais, il y en a plusieurs, mais tu sais, comme la mémoire est faite comme ça, je me souviens toujours du dernier un peu cool que j'ai lu. Donc là, en ce moment, enfin en ce moment, sur ce dernier trimestre, c'est E-Myth, donc le mythe de l'entrepreneur, qui est un bouquin hyper intéressant qui explique pourquoi la plupart des entrepreneurs sont en fait des techniciens qui refont la même chose mais dans leur propre boîte et qui deviennent prisonniers. Et qu'en fait, en réalité, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui crée un système qui doit fonctionner tout seul pour qu'un jour, bah, il puisse le revendre. En fait, c'est ça le vrai but. Et qu'aujourd'hui, avec tout ce qui est levée de fonds, avec tout ce qui est la manière dont on voit l'entrepreneuriat aujourd'hui, avec les freelancing, et bah, souvent, on a oublié ce que c'était qu'à la base un entrepreneur. Et c'est hyper intéressant parce qu'on parle de système. Et moi, je suis un amoureux des systèmes. Pour moi, un système, ça a une entrée, une sortie, et qu'il y a des choses qui se passent à l'intérieur. Et qu'il y a des systèmes qui sont des systèmes vertueux, et c'est ça qui fait un bon entrepreneur. Donc c'est E-Myth, le mythe de l'entrepreneur. Donc E-MYTH.
Ok, trop bien. Bah, de toute façon, encore une fois, je mettrai le nom de ce bouquin dans les notes de l'épisode. En tout cas, merci beaucoup à toi, Choubam. Et puis, je pense que tu pourras revenir d'ici quelques mois sur ce podcast, parce qu'à mon avis, tu auras de nouvelles choses à nous raconter entre les différents projets que tu vas monter, ceux qui auront échoué, ceux qui auront réussi. Donc, en tout cas, merci beaucoup à toi, et puis à bientôt, j'espère.
Bah, merci beaucoup de m'avoir invité, c'est hyper cool. Et puis j'espère qu'on se recap bientôt, et soit de mon côté, soit de ton côté, c'est avec plaisir. Merci beaucoup.
Yes, merci, salut. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous donner votre avis avec une note et un commentaire, ou même à partager l'épisode sur vos réseaux sociaux ou à votre entourage qui pourrait être intéressé. Ça nous aide énormément à nous faire connaître et à partager ces retours d'expérience à davantage de monde. En tout cas, merci pour votre écoute, et moi je vous dis à la semaine prochaine.